Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est maintenant Fréquence Mistral pour la dignité, cette émission avec Régis Coulange. Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons Martine et moi une invitée, Catherine Dufour, qui fait partie du réseau Éducation sans frontières et qui va un petit peu vous présenter son réseau. Et pourquoi j'ai invité Catherine? C'est parce que au mois de mars, nous organisons Amnesty International dans la région PACA Corse un festival de cinéma qui permet de faire passer énormément de films que nous avons sélectionnés en amont, qui traitent bien sûr des droits humains et qui permettent de nombreux débats dans toutes les villes où a lieu ce festival. Voilà, alors au programme aussi, donc on va bien sûr parler du film Bienvenue qui est sur l'accueil des réfugiés en Europe. Et puis, nous parlerons du rapport annuel d'Amnesty International qui vient de sortir et donc qui est très, très négatif. Hein. On a vu qu'il y a de grandes menaces sur les droits humains. Ensuite, on va parler de l'actualité des élections en France et nous allons interpeller tous les candidats par un formulaire leur demandant de s'engager sur les valeurs des droits humains. Et on communiquera les réponses obtenues des uns et des autres. Voilà, on terminera par de bonnes nouvelles, parce que c'est bien qu'il y ait quand même des bonnes nouvelles. Et puis par les actions du groupe Dinois, notamment en direction de l'éducation aux droits humains. Voilà. Alors, bonjour Catherine.
Bonjour.
Voilà, alors on se connaît depuis longtemps, puisqu'on a été enseignant en primaire et en maternelle pendant de longues années. Voilà, et comme moi, tu es à la retraite et tu continues à t'occuper d'enfants directement dans le cadre du réseau Éducation sans frontières.
Voilà, c'est ça. C'est venu tout à fait naturellement, puisque tous ces enfants, on les avait dans nos classes. Et comme tu le disais tout à l'heure, Réseau Éducation sans frontières part des enfants, des parents qui n'ont pas de papier. Cette situation d'enfants qui sont sur les mêmes bancs que les autres, mais dont la seule différence est que leurs parents n'aient pas de papier, était assez insupportable, en sachant, notamment dans les années 2000, que quelquefois la police est venue chercher des enfants directement dans les écoles. Et d'ailleurs, c'est ces événements-là qui sont à la naissance du réseau Éducation sans frontières, pour ne plus jamais avoir cette situation terrible et angoissante de tous ces enfants dont les parents n'avaient pas de papier. Donc, Réseau Éducation sans frontières a été créé au niveau français en 2004. Donc, c'est un réseau, et ce qui lui permet une grande souplesse de mouvement suivant les événements sur place. Il y a à peu près un réseau par département à l'heure actuelle. Quelquefois, il y a plusieurs antennes, notamment nous, dans le 04, il y a une antenne à Manosque. Il y a eu une antenne à Château-Arnoux, qui est actuellement encore, enfin, un peu en veille, on va dire, et l'antenne de Digne-les-Bains. Et évidemment, chaque fois, c'est parce que sur le territoire, il y a des familles de sans-papiers qui sont en danger, hein, hors dispositifs nationaux. Parce que nous occupons des enfants, des familles qui n'ont pas de droit, soit qui sont déboutés, soit qui n'ont pas obtenu le droit de faire leur demande d'asile dans des centres officiels, les CADA, comme on appelle, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc ces gens-là se retrouvent dans une situation très précaire Mais les enfants sont dans nos écoles. Donc, il est de notre devoir de les soutenir et de faire connaître leur situation. Donc, c'est comme ça qu'on part des écoles, on crée des comités de soutien à partir de l'école, on donne des informations, des parents d'élèves viennent, des enseignants, et toute cette mise en lumière sur la situation de ces familles est très importante dans leur quotidien. Après, on les aide dans les démarches administratives parce qu'ils ont des droits. C'est pas parce qu'ils sont dans des situations irrégulières qu'ils n'ont pas de droits. Et souvent, ils ne les connaissent pas ou on est obligé de les accompagner, ne serait-ce que pour la santé ou l'éducation. Si on est à leur côté, souvent, les choses se démêlent beaucoup plus facilement. Voilà.
Voilà, donc vous aidez les familles à notamment à remplir les papiers.
Voilà, à savoir au moins les envoyer vers les organismes auxquels ils ont droit. Parce que quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas la langue ni le système d'organisation, savoir qu'est-ce que c'est la différence entre un SAO, un CADA, la CAF et autres CPAM et sigles barbares, il faut arriver vraiment à se débrouiller. Et ce dont ils ont besoin, souvent ce qu'ils nous disent, c'est qu'on les sort de l'invisibilité. Donc, ils arrivent en France, ils ont bien compris que, donc, d'abord, il y a eu les passeurs. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils sont en situation irrégulière parce que, quelquefois, on leur a pris leurs empreintes dans un autre pays de l'espace Schengen. Développe un peu. Et donc, ayant été arrêtés dans d'autres pays, la France leur dit, vous n'avez qu'à aller faire votre demande d'asile dans le pays où vous avez posé...
Ils sont dublinés, comme on
voilà,
dit maintenant.
Voilà, comme on dit dublinés.
On a inventé des mots nouveaux.
Voilà, parce que c'est une circulaire qui s'appelle Dublin 2, etc.
Voilà.
Voilà. Donc, on les accompagne et ils nous disent après que... On leur a permis de pouvoir, mais ne serait-ce que dire bonjour dans la rue à des gens du comité de soutien ou les rencontrer lorsqu'ils vont à la médiathèque ou à un autre endroit. Et tout ça leur redonne de la dignité et une énergie pour continuer à avancer et à accepter cette situation un peu souterraine pendant de longs mois, voire plusieurs années.
Oui, c'est en fait ce qui ressort du rapport d'Amnesty International qui dit que finalement les États ne sont pas à la hauteur des citoyens dans de nombreux pays et on voit que passer les premiers sentiments diffus de rejet quand on s'aperçoit qu'en fait on a des hommes, des femmes et des enfants en face, il y a des liens qui se créent où les préjugés s'effacent petit à petit, hein, comme on a pu le voir avec les migrants qui sont arrivés de Calais sur Digne, hein, où la première réunion avait été très, très difficile. Puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème de relation. Au contraire, il y a des liens qui se tissent. Et c'est vrai qu'à Amnesty, dans le groupe, il y a quelques personnes qui vont voir ces migrants et qui ont tissé des liens avec eux. Très sympathique parce qu'on est entre humains, hein, donc on rejoint bien les mêmes combats et les mêmes valeurs, mais sur des plans différents, puisque vous, c'est un travail très local, finalement, et nous, c'est un travail. D'abord, il y a la dimension internationale de solidarité internationale qui fait qu'on va agir dans le monde entier pour des personnes victimes de droits et pas uniquement, bien sûr, des migrants. Hein. On va lutter contre la torture, contre la peine de mort, contre les exécutions extrajudiciaires, les déplacements forcés, etc. Mais c'est vrai que le travail de terrain que vous faites est aussi très important et redonne quand même de l'espoir dans les combats qu'on mène. Hein. Ce qui est important, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, hein, puisque vous partez de l'enfant. Et vous avez aussi de l'aide aux enfants directement, ou c'est plus tourné vers les adultes, vers les familles, vers les parents?
Quelquefois, l'aide aux enfants en direct va être au niveau des personnes, c'est-à-dire que des gens vont les inviter, des militants vont les accompagner à la médiathèque ou vont les aider à obtenir une inscription dans un club de sport pour le mercredi, etc., ou les accompagner à des fêtes aux soirées-jeux, par exemple, à la salle Perchaud. Mais notre action est plus vers les familles, pour juste tout ce qui est essentiel, le logement, retrouver du travail quand ils ont finalement le droit de travailler, etc. Donc, on essaie d'agir sur l'environnement immédiat des enfants, pour que justement ils puissent, avec leur famille, aidant aussi la dignité, parce que pour eux, ils ont besoin de sentir que des parents sont là pour les protéger. Parce que c'est la première chose qu'ils perdent. Ces gens-là, en arrivant dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue, où ils ne peuvent pas travailler ni rien, ils perdent un peu cette notion du parent qui protège l'enfant. Et c'est important d'arriver à ce que les enfants voient leurs parents en train de travailler, voient leurs parents en train de les protéger par rapport au logement et tout ça. C'est...
Très bien. Tu as autre chose à rajouter sur...
Disons que sur Digne, actuellement, il y a à peu près 2 comités de soutien qui fonctionnent, parce que, heureusement, la plupart des familles qu'on suivait ont obtenu une régularisation. Donc, en ce moment, il y a un comité de soutien actif sur l'école Paul Martin et un comité de soutien qui vient de se créer sur l'école de Champtercier. Bon, c'est pas Digne, mais on va quand même pas exagérer. Et voilà, donc si les gens entendent parler de ces réunions, ils peuvent nous contacter. Donc, RESF, on a une adresse mail et une adresse postale. Donc, l'adresse postale, c'est 15 rue de la Curaterie à Digne-les-Bains. Réunion mensuelle tous les premiers jeudis du mois à 18h30. Donc pour le mois de mars, c'est le jeudi 2 mars à 18h30 à l'adresse que je viens de nommer. Et pour l'adresse mail, j'ai un blanc là, je vais vous la donner tout à l'heure.
Voilà. De toute façon, on la mettra sur le site sur de Fréquence Mistral, voilà. Ainsi que l'adresse du lieu, du local. Voilà.
Et on a aussi une permanence, mais ça, cette permanence, c'est pour les réfugiés. Donc, une permanence 2 fois par mois, au même endroit, à 17h15, le premier et troisième jeudi du mois.
Voilà, alors là, c'est jeudi. Pour des renseignements.
Voilà, si quelqu'un connaît une famille qui a besoin de renseignements sur l'hébergement, la demande d'asile, on a organisé ces permanences pour pouvoir scinder et le travail des militants de RESF et les demandes de renseignement. Voilà.
Très bien.
Tous les quand, ça ?
Premier et troisième jeudi du mois, à 17h, de 17h15 à 16h15.
Voilà, hein, donc non, tout sera noté sur le site de Fréquence Mistral. Très bien, ben, merci beaucoup Catherine pour ce bel engagement. Dans Réseau Éducation Sans Frontières de Digne. Voilà, alors nous allons maintenant passer à une chanson de Michel Buller. Alors j'ai choisi ce chanteur parce que c'est un chanteur engagé et suisse. Et puis on l'entend très peu sur les radios, alors on s'est dit tiens, allez.
Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dit pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur, pour étendard, ont le sourire du Tché. Autour du cou, des foulards, des keffiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice, et tout de suite, et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent, ceux qui disent non.
Voilà, très belle chanson de Michel Buller. Alors donc, jeudi 9 mars à 18h15 au Ciné-Étoile, dans le cadre du festival au cinéma pour les droits humains organisé par Amnesty International dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, nous allons faire passer le film Bienvenue. Et nous avons invité en partenariat d'autres associations qui s'occupent des droits humains, donc Réseau Éducation Sans Frontières, bien sûr, la Ligue des Droits de l'Homme, le Secours Populaire, le Secours Catholique, voilà, seront présents pour animer ensemble le débat à la fin de ce film. Donc, Bienvenue, c'est une comédie donc, qui parle de l'accueil des migrants. Alors voilà le thème de ce film. Quand on est propriétaire d'un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre d'accueil pour réfugiés pour profiter des subventions bien opportunes? Voilà, c'est le bon plan de M. Primus, qui est un hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures. Mais voilà, la bonne idée de Primus ne s'avère pas si simple. Accueillir 50 personnes d'origines diverses, quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle et des préjugés racistes, ça me promet bien des déconvenues, mais aussi des heureuses surprises. Voilà, donc une comédie. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas un sujet trop grave, les réfugiés, pour être traités de façon légère? En fait, le réalisateur Rune Denstad Langlo nous répond « Je ne crois pas. Être léger ne veut pas forcément dire être superficiel. Je pense que l'on peut faire une comédie qui s'inspire d'un thème d'une brûlante actualité. L'humour a aussi sa place dans les moments tragiques de l'existence. Des migrants, dont certains sont figurants dans le film, me l'ont confirmé. Bienvenue traite d'un phénomène de société qui, on le sait, affecte de nombreux pays. Un sujet délicat. C'est pour cela que je tenais vraiment à ce qu'il soit traité avec tendresse et chaleur humaine, que mes personnages ne soient pas de simples pions, des entités anonymes. On a parfois tendance à oublier, quand on parle des réfugiés, que l'on a affaire à des êtres humains à part entière. Ils ont parfois eu une histoire très douloureuse, certes, mais cela ne justifie pas qu'on fasse d'eux exclusivement des victimes, car ils sont souvent dotés de fortes personnalités. C'était le cas de Lars, mon arrière-grand-père, qui a migré aux États-Unis à l'âge de 19 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a 150 ans environ, poussé par la misère, plus de 800 000 Norvégiens, puisque le film se passe en Norvège, hein, plus de 800 000 Norvégiens, un tiers de la population de l'époque, ont fait le choix de l'émigration comme d'autres le font de nos jours. Alors, je pense que c'est quelque chose d'important à remettre en mémoire, ces migrations poussées par la misère. Hein. Et de nos jours, c'est poussé par la misère, mais aussi c'est poussé par la terreur, par les bombes et par le risque de mourir, simplement. Hein. En effet, donc, il continue dans son entretien, le réalisateur, de nous dire qu'il aimerait que son film nous incite à rester vigilants et promptes à faire la chasse aux préjugés, à ces mauvaises pensées, à ces violences qu'engendrent la peur et l'ignorance. On a tous en nous des relents racistes qui ne demandent qu'à s'épanouir, alors qu'un peu de patience et de compréhension peut résoudre bien des problèmes. Mais j'espère aussi qu'en voyant Bienvenue, on va sourire et rire de bon cœur, sans arrière-pensée. Donc je vous invite à venir nombreux voir cette comédie et puis discuter un petit peu de l'accueil des réfugiés de façon plus détendue, parce que en fait, c'est aussi un apport énorme à la société, à notre société, hein, de cet accueil des réfugiés. Alors bien sûr, Bienvenue, c'est un film qui est soutenu par Amnesty International, parce que il aborde les thèmes de notre campagne qu'on appelle I Welcome, et qui est une campagne qui vise à ce que les pays prennent en charge ce problème et créent des voies sûres pour les réfugiés, afin qu'il n'y ait plus tous ces morts par milliers en Méditerranée notamment, et puis accueillent dignement toutes ces personnes. Voilà. Donc venez voir ce film, je vous invite vivement, hein, vous verrez bien des... Il y a beaucoup d'humour et en même temps, les sujets sont traités. Et donc, je vous rappelle, jeudi 9, à partir de 18h15, au Cine-Étoile. Voilà, en présence d'autres associations. Voilà, alors maintenant, pour toujours parler de l'accueil des réfugiés en Europe, nous allons écouter Jean-François Dubost, qui est... salarié d'Amnesty International à Paris et qui s'occupe justement des personnes en danger et des réfugiés. Voilà, on lui a posé trois questions et il nous parle du délit de solidarité.
À la frontière franco-italienne, il y a de nombreuses violations des droits, des personnes qui tentent de franchir cette frontière, certaines pour trouver refuge sur le territoire français. Et cette situation n'a pas laissé insensibles en fait, les habitants, les citoyens, des groupes de personnes qui habitent sur cette zone, à cette frontière. Et ils ont décidé d'intervenir, soit certains pour donner des vêtements, fournir de la nourriture, ou alors donner des médicaments, permettre d'accéder à des soins, ou encore fournir des conseils juridiques pour aider ces personnes à faire valoir leurs droits. Et des personnes comme Cédric Héroux, qui est la personne peut-être la plus connue, mais il y en a bien d'autres également, ont été poursuivies par le procureur de la République parce que les autorités considèrent que tous ces agissements-là, en fait, sont des façons d'aider les personnes à entrer, à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, ce qui en France est une infraction pénale, alors que pour nous...
Excuse-moi, il y a eu un petit bug, on le remet tout de suite. Donc, question sur les droits. C'est parti, pardon.
À la frontière franco-italienne, il y a de nombreuses violations des droits, des personnes qui tentent de franchir cette frontière, certaines pour trouver refuge sur le territoire français. Et cette situation n'a pas laissé insensibles en fait, les habitants, les citoyens, des groupes de personnes qui habitent sur cette zone, à cette frontière. Et ils ont décidé d'intervenir, soit certains pour donner des vêtements, fournir de la nourriture, ou alors donner des médicaments, permettre d'accéder à des soins, ou encore fournir des conseils juridiques pour aider ces personnes à faire valoir leurs droits. Et des personnes comme Cédric Héroux, qui est la personne peut-être la plus connue, mais il y en a bien d'autres également, ont été poursuivies par le procureur de la République parce que les autorités considèrent que tous ces agissements-là, en fait, sont des façons d'aider les personnes à entrer, à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, ce qui en France est une infraction pénale, alors que pour nous, tous ces gestes sont des gestes d'humanité, de solidarité qui ne devraient pas être punis par la loi. À la frontière franco-italienne, comme aux autres frontières de France, les contrôles ont été rétablis du fait de l'état d'urgence. Cela signifie que les personnes sont contrôlées, sont interceptées, arrêtées, notamment lorsqu'elles n'ont pas un visa pour rentrer sur le sol français. C'est valable effectivement aussi, en particulier pour les personnes migrantes et réfugiées. Lorsque nous sommes rendus sur place, dans le cadre de notre mission à Amnesty International, nous avons constaté que ces personnes-là, leurs droits n'étaient pas respectés de façon systématique par les autorités françaises. Il y avait d'abord des renvois illégaux vers l'Italie, c'est-à-dire des renvois où les personnes n'avaient pas de décision en poche, on ne leur avait pas, ou alors on leur a donné une décision mais il n'y avait pas d'explication, elles n'avaient pas connaissance des raisons pour lesquelles elles étaient renvoyées, ni même des droits qu'elles pouvaient faire valoir. On a aussi constaté qu'il n'y avait quasiment pas de possibilité de demander l'asile, alors même que ces personnes sont à première vue des réfugiés. Il s'agit d'Érythréens, de personnes qui viennent de l'Afghanistan, du Soudan, donc des personnes qui ont un besoin d'être protégées, en Europe et en France en particulier. Donc ce n'est pas le cas à cette frontière. Et puis enfin et surtout, l'élément le plus grave pour nous, c'est que parmi toutes ces personnes, il y a des enfants qui ne sont pas accompagnés par leurs parents. Et ces enfants-là sont traités de façon tout à fait identique, comme s'ils étaient des adultes par les autorités françaises, ce qui n'est pas normal parce que ces enfants sont en grande vulnérabilité et qu'ils ont besoin de protection. Et ça, c'est prévu par la loi française et ce n'est pas respecté à cette frontière. Il y a trois solutions pour tenter de remettre la situation à l'endroit, dans le bon ordre, à la frontière franco-italienne. La première, c'est qu'il faut à tout prix cesser les renvois illégaux vers l'Italie. Les renvois illégaux, cela signifie des personnes qui sont renvoyées dès qu'elles posent le pied sur la frontière française ou sur le sol français, sans avoir eu une décision écrite qu'elles ont pu comprendre avec un traducteur, sans avoir eu la possibilité de déposer éventuellement un recours ou même de solliciter l'asile. Ça, c'est la première mesure. Solliciter l'asile, justement, c'est la seconde solution. Il faut que les personnes qui souhaitent déposer une demande de protection pour être protégées par la France puissent le faire, soient entendues et voient leur demande d'asile enregistré et examiné. Puis la dernière solution concerne bien évidemment les enfants non accompagnés, c'est-à-dire sans leurs parents, hein, qui sont seuls. Ces enfants-là ne doivent absolument pas être traités comme les adultes, comme c'est le cas jusqu'à présent. Ces enfants doivent être accueillis en France, protégés. Cela signifie qu'on doit leur faire passer la frontière et puis surtout qu'ils soient pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Voilà, donc à Amnesty International à Paris, il y a une commission qui s'appelle Commission Droits de l'Enfant et qui justement vient de sortir un petit dossier sur les mineurs isolés étrangers et où le responsable de la commission donc, note que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a épinglé la Grande-Bretagne et la France comme ayant failli sérieusement à leur obligation stipulée par la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour la manière avec laquelle a été traitée la situation des enfants qui vivaient dans le camp de migrants de Calais. Elle souligne que l'intérêt supérieur de l'enfant a été complètement ignoré. Voilà, la multiplication des obstacles à l'accueil des mineurs isolés étrangers favorise les activités des trafiquants. Après le refus de la Grande-Bretagne, oppose aux espoirs de nombreux mineurs isolés de rejoindre leur famille, ceux-ci retournent dans la Calaisie, retenter le passage sauvage et dangereux de la Manche. Les autorités et la société civile doivent faire bien mieux pour être à la hauteur de la signature de la CIDE. Et d'ailleurs, j'ai donc les faits récents, donc fin janvier, au niveau de Calais, hein, 3 mois après le démantèlement de la jungle, des dizaines de migrants sont de retour dans la région. Nous avons compté à la louche le retour d'une centaine de mineurs dans la zone, déclare un membre d'Utopia 56, une association qui effectue depuis le début de l'année des maraudes quotidiennes. Ils ne se réinstallent pas dans l'ancienne jungle, quadrillée par les forces de l'ordre, mais autour de l'ancien bidonville, aux abords de la gare de Calais, voire même dans le centre-ville ou près du port, sur les parkings. Voilà, donc ces mineurs sont revenus pour passer. Hein, et sur les 1950 mineurs isolés étrangers qui avaient été identifiés sur le site, il y en a 860 qui ont été acceptés par le Royaume-Uni. Donc ça en fait encore beaucoup qui veulent rejoindre leur famille là-bas. Voilà, donc maintenant nous allons passer à nouveau Michel Buller. Un yodel, c'est une chanson qui s'apparente à ce qu'on appelle la tyrolienne. Là. C'est une façon de chanter en fait, vous allez voir, ou écouter.
Oh, Là-haut sur la montagne est une station de ski. De belles poules y accompagnent des financiers esquis. Les employés précaires leur cirent les spatules. En bas, Christophe Blocher augmente son pécule. Debout dans ses labours, un paysan floué constate le cœur lourd qu'il est en train de crever. Christophe, te voilà, pour les petits, ça sera dur. Faudra qu'ils apprennent à se serrer la ceinture. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. La caissière qu'elle a dans mon supermarché, dans sa blouse lila, l'arrête pas de trimer. Ce qu'elle engrange en 10 ans, toi tu le gagnes en un jour. Où est-ce qu'elle trouve le temps pour la vie, pour l'amour? Drapés dans leur drapeau, des partisans charmants rêvent de faire la peau à tout ce qui est différent. Ça te gêne pas, cette haine-là, pendant qu'ils se battent entre eux. Les pauvres s'occupent pas de tes profits, parbleu. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. D'accord, tous tes slogans de merde font recette. Et c'est qu'à coup d'argent, aujourd'hui tout s'achète. Les pages des journaux, le débat démocratique. La conscience des vaut l'âme des politiques. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé. Yodala hitti, yodala hittu, yodala hitti, youhé.
Ciel gris glacé de ce pauvre hiver.
Voilà, encore une belle chanson de Michel Buller, je vous le conseille. Donc nous allons maintenant parler du rapport d'Amnesty International qui a été publié le 22 février dernier et qui a été présenté en France, hein, c'est quand même un signe, hein, puisque le président d'Amnesty International est venu en France pour présenter ce rapport à Paris. Et ben voilà, on est très inquiet parce qu'on se demande si 2017 ne va pas être pire que 2016. En effet, dans ce contexte mondial hautement instable, la tendance au repli, au rejet risque de se confirmer pour l'année qui vient. La politique de rejet des autres se manifeste également à l'échelle internationale où le multilatéralisme cède la place à un ordre mondial plus agressif et plus conflictuel. Le monde est confronté à une longue liste de crises sans que l'on constate une réelle volonté politique de les résoudre. Les États les plus puissants se sont repliés sur leurs intérêts nationaux au détriment de la coopération et de la solidarité internationale qui fondent l'ordre mondial depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que nous, on dit qu'il y a, c'est une crise de, pas des réfugiés, mais de l'accueil des réfugiés. La majorité des États, même s'ils prétendent encore défendre les droits humains, font en fait marche arrière et renient leur engagement. Les règles élémentaires du droit international sont mises à mal par les actions militaires menées dans le monde entier, de la coalition par exemple menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, en passant par les offensives lancées par les forces russes et le gouvernement syrien. Le monde est confronté à une longue liste de crises sans que l'on constate une réelle volonté politique de les résoudre. Citons par exemple la Syrie, le Yémen, la Libye, l'Afghanistan, l'Amérique centrale, la République centrafricaine, le Burundi, l'Irak, le Soudan du Sud et le Soudan. La justice internationale et la lutte contre l'impunité sont aussi mises à mal par le retrait de la Cour pénale internationale de nombreux pays comme la Gambie et le Kenya, alors que dans le même temps, la Russie a annulé sa signature à cette Cour pénale internationale. Progressivement, le monde s'habitue à ce que la communauté internationale soit incapable de mettre un terme aux massacres en Syrie, au Yémen ou encore au Soudan du Sud. Notre rapport annuel fait état de crimes de guerre perpétrés dans au moins 23 pays en 2016. En ce début d'année 2017, la majorité des États de la planète se préoccupent avant tout de leur intérêt aux dépens de la coopération internationale, ce qui risque de nous entraîner vers un monde plus chaotique et plus dangereux. Ces grandes puissances n'usent plus de leur influence pour protéger les droits fondamentaux et exiger d'autres États qu'ils prennent leurs responsabilités. un tel ordre mondial où les droits humains sont considérés comme un obstacle aux intérêts nationaux affaiblit dangereusement la capacité à combattre les atrocités massives qui sont commises, laissant la porte ouverte à des violences qui ne sont pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Alors Amnesty, dans ce contexte très difficile, espère et pense que la différence va se faire par les citoyens. La solidarité mondiale et la mobilisation du grand public seront donc particulièrement importantes en 2017 pour défendre celles et ceux qui s'opposent aux autorités et se battent pour les droits humains, que les gouvernements présentent souvent comme des obstacles au développement économique, à la sécurité ou à d'autres priorités. Nous ne pouvons attendre passivement que les gouvernements défendent les droits humains, nous devons passer à l'action. Face à des responsables politiques qui ont de plus en plus tendance à diaboliser des groupes entiers de la population, il a rarement été aussi évident que nous devions tous, partout dans le monde, nous battre pour les valeurs fondamentales que sont la dignité humaine et l'égalité. Voilà, nous allons maintenant écouter Catherine Godard, qui est la directrice du pôle Action à Amnesty France et qui vous parle également de ce rapport et des menaces sur les droits en France.
Comme chaque année, Amnesty International sort son rapport annuel sur les droits humains dans le monde et le chapitre France de ce rapport pour 2016 n'est pas bon. Les droits humains ont fait l'objet de nombreuses attaques en France. Un état d'urgence n'est potentiellement efficace que sur une courte durée. C'est une mesure exceptionnelle et qui doit rester exceptionnelle. On le voit bien d'ailleurs dans les résultats, le bilan de l'état d'urgence est plutôt maigre. Il y a eu plus de 6500 mesures dans le cadre de l'état d'urgence. Seulement 0,3% de ces mesures ont donné lieu à des poursuites judiciaires pour des faits liés au terrorisme. D'autre part, la mise en œuvre de cet état d'urgence a fait l'objet de nombreuses dérives. Des assignations à résidence, des interdictions de manifester, des perquisitions à domicile, des perquisitions qui peuvent être extrêmement choquantes, extrêmement violentes. Aujourd'hui, on est confronté en France à une classe politique qui n'hésite pas à tenir des propos toxiques et des propos qui mettent en avant des boucs émissaires, qu'il s'agisse de populations musulmanes en particulier, qui sont vraiment montrées du doigt comme étant une menace pour la société française, ou le lien qui est fait de manière assez systématique entre réfugiés et terroristes. La réponse de la France à la crise de l'accueil des réfugiés a été, je dirais, mitigée. C'est-à-dire que d'un côté, la France a posé un certain nombre d'actes positifs, encourageants. Cependant, cette réponse de la France est insuffisante au regard des besoins et au regard des moyens qu'a la France au sein de l'Union européenne. On voit bien que sur le territoire français, par exemple, la France a très mal géré la situation à Calais, gère très mal la situation à la frontière entre l'Italie et notre territoire. La manière dont la France met en œuvre le droit d'asile est encore entachée de nombreuses violations, atteintes au droit d'asile, renvois abusifs de personnes qui normalement devraient pouvoir demander l'asile en France et ne sont pas en mesure de le faire, etc. Amnesty International, dans ce contexte particulier préélectoral, jusqu'à l'élection, nous voulons nous mobiliser et mobiliser l'opinion et interpeller les candidats. Nous voulons que les droits fassent partie de la solution. D'une part, en interpellant les candidats sur la base de 10 engagements que nous leur soumettons, et d'autre part, en menant une campagne pour alerter l'opinion publique chaque fois qu'il y aura dans les discours des candidats des propos qui sont contraires aux droits humains, nous les alerterons, nous réagirons et nous espérons et nous souhaitons que l'opinion publique se mobilise pour exiger des candidats le respect des droits humains dans leurs propos comme dans leurs actes.
Voilà, alors nous allons, donc elle vous a dit que nous allons envoyer un formulaire aux candidats et à leurs équipes de campagne pour leur demander de s'engager en faveur des droits humains, parce qu'on pense que les droits humains ne sont pas le problème, mais font partie de la solution. Alors voilà les 10 points sur lesquels nous allons demander à chaque candidat de s'engager. Et puis nous communiquerons bien sûr leur réponse, s'ils s'engagent, sur quel point ils ne s'engagent pas. Voilà. Alors on va vous les lire, il y en a 10, c'est assez vite fait. Alors le premier point, je m'engage à mettre fin à l'état d'urgence en France et à garantir le contrôle en amont par le juge de la nécessité et proportionnalité de toute mesure restrictive des droits et libertés.
Deuxième point, je m'engage à interdire toute surveillance de masse par la France et à garantir l'accès de tous à un chiffrement robuste des communications et données.
Trois, je m'engage à garantir et à protéger activement le droit de réunion pacifique en France.
Quatre, je m'engage à accueillir en France un plus grand nombre de réfugiés vulnérables dans le cadre d'un accord conclu avec le Haut Commissariat aux réfugiés.
Cinq, je m'engage à garantir un accès rapide à la procédure d'asile pour celles et ceux qui demandent la protection de la France, notamment respectant le délai d'enregistrement de 3 jours.
6. Je m'engage à mettre en place une véritable politique positive de résorption des bidonvilles par l'insertion et l'accès aux droits des personnes.
Je m'engage à donner en France accès à la justice aux victimes des activités d'entreprises françaises à l'étranger, en ne faisant pas peser la charge de la preuve sur ces victimes.
8. Je m'engage à mettre en conformité les exportations françaises d'armes, de sécurité et d'équipements connexes avec le traité sur le commerce des armes, à réguler en France l'activité des courtiers en armes et à donner les moyens à la justice de poursuivre les responsables de violations des embargos sur les armes.
Point 9. Je m'engage à poursuivre les efforts de la France pour que le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'empêche plus de porter secours à des populations civiles victimes d'atrocités de masse.
10. Je m'engage à soutenir activement et publiquement l'action des défenseurs des droits humains dans le monde dans le cadre des relations de la France avec des pays tiers.
Voilà donc le formulaire qui est envoyé en ce moment aux candidats. Et nous communiquerons bien sûr leur réponse. Donc pour avoir leur réponse, allez voir sur le site d'Amnesty dans quelques temps, amnesty.fr, et vous aurez les réponses que nous obtiendrons. Et bien une nouvelle chanson. Allez, on continue avec Michel Buller.
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante, extra-lucide, planté devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demains qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellé tout au fond de moi, l'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qu'illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jénine ou en Haïti, comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours, suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi, quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline, c'est toujours relever le front. Quand les autres courbent l'échine, l'espoir c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins ceux qui prétendent inéluctable le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table. C'est montrer son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur des fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Voilà, l'espoir qui nous fait humains. Eh bien, en signe d'espoir, on va vous donner deux bonnes nouvelles. Une qui concerne un jeune Hamid Hamadi, qui est un Iranien, qui avait été condamné à mort en 2009 à l'issue d'un procès injuste, fondé sur des aveux qui lui auraient été extorqués sous la torture et les mauvais traitements. Il avait à peine 17 ans. Ce qui est tout à fait contraire aux droits humains, puisque on ne doit pas condamner à mort un mineur. Pendant des années, il a vécu l'enfer de l'attente en isolement. Reporté que pour la quatrième fois, son exécution avait été fixée dernièrement au 18 février pour être enfin suspendu. Il n'est plus à l'isolement et a été placé dans une autre section de la prison. Donc les autorités iraniennes ont informé sa famille qu'elle avait arrêté tout projet de l'exécuter. Et nous pensons vraiment que c'est grâce à la forte mobilisation que nous avons faite, puisque des milliers de courriers ont été envoyés aux autorités iraniennes. Et devant cette mobilisation générale, cette exécution a été suspendue. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous et on demeure quand même très vigilant. On va continuer à surveiller de près sa situation. Parce qu'on sait très bien qu'au cours du dernier mois, les autorités iraniennes ont exécuté deux jeunes hommes arrêtés alors qu'ils étaient mineurs. Et on a enregistré 77 exécutions de jeunes délinquants entre 2005 et 2017. Donc voilà, pour ce jeune homme, c'est un combat qui a payé, mais on continue à surveiller la situation. Et puis une deuxième nouvelle, bonne nouvelle, Martine.
Alors, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre après 4 ans de parcours législatif, une avancée historique. Ce texte marque une avancée pour le respect des droits humains par les multinationales. Il est temps désormais que les pays européens et la communauté internationale s'inspirent de cette disposition et développent des législations qui vont dans le même sens. Il y a 5 ans, le candidat Hollande a déclaré vouloir que soient traduits dans la loi les principes de responsabilité des maisons mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l'étranger lorsqu'ils provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. Cette loi sera donc finalement l'une des dernières lois adoptées sous son quinquennat.
Très bien, voilà, ça fait plaisir quand même quand on obtient quelques résultats. Nous allons maintenant vous présenter les actions du groupe Dinois, les prochaines actions. Alors demain, mardi 28 février à 18h, dans une des salles des associations à côté de la mairie de Digne, c'est la réunion du groupe. Donc nous ferons notre assemblée générale en même temps. En principe, il doit y avoir des jeunes lycéens qui viendront nous rejoindre. Ensuite, le lundi 6 mars et le vendredi 10 mars, nous serons au lycée Pierre-Gilles de Gênes pour projeter un film dans le cadre du festival du film sur les droits humains. Un film qui s'appelle « À court d'enfants » et qui parle d'un sujet très peu connu. On en a parlé récemment, mais ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était dans les années 60-70. C'est l'histoire de ces enfants de l'île de la Réunion qui ont été pratiquement volés à leur famille pour aller repeupler les territoires dépeuplés de la France, la Creuse notamment, le Tarn et quelques autres départements. Voilà, alors c'est un film qui est romancé, mais qui parle de faits réels. Hein. Le réalisateur s'est bien documenté sur ces enfants devenus adultes et qui sont toujours en recherche de leur identité, de leur famille, et qui ont vécu, pour certains, vraiment un enfer, puisqu'il y a eu énormément de suicides, de problèmes d'adaptation, bien sûr, et puis ce désir de connaître leurs origines. Et c'était dans les années 60-70, et c'était à l'initiative de Michel Debré, qui avait été député de l'île La Réunion et qui trouvait qu'il y avait trop d'enfants là-bas, pauvres et pas assez dans certains départements. Donc il s'est dit, ben voilà, on en prend de là-bas et on les amène en France en plein hiver. Alors vous imaginez déjà le dépaysement climatique pour ces enfants. Alors au départ, l'idée, c'était de prendre des enfants adoptables, des enfants qui avaient été abandonnés, qui étaient orphelins. Mais très vite, ça a dégénéré et on a fait signer à des parents illettrés, sans savoir vraiment ce qu'ils signaient ou simplement en mettant le pouce, hein, des abandons, alors sans qu'ils réalisent vraiment que c'était un abandon. Hein. On leur a fait croire que ces enfants allaient poursuivre des études, allaient devenir médecins, avocats, que sais-je encore. Et qu'ils reviendraient pour les vacances tous les ans. Or, ces enfants sont partis avec un billet d'aller, c'est tout. Et en fait, certains ont été bien accueillis, ont été adoptés dans des familles aimantes, ce qui n'a pas empêché quand même de se poser des problèmes personnels sur leur origine à partir d'un certain moment, hein, en voyant que simplement la couleur de la peau ressemblait pas trop à celle des parents. Mais d'autres ont été utilisés comme des esclaves, hein, dans les fermes, jusqu'à certains se sont suicidés, beaucoup se sont retrouvés en hôpitaux psychiatriques. Et puis il y a des enfants qui ont vécu pendant des années et des années à côté de leurs frères et sœurs sans savoir qu'ils vivaient à côté de leurs frères et sœurs. Hein. Ça paraît incroyable au pays des droits humains, mais ça existe. Et du coup, c'est important de passer ce film pour montrer donc aux lycéens qu'il faut être très vigilant et que si on ne met pas vraiment les droits humains au cœur de toutes les politiques que l'on fait, on peut arriver à des abominations, quoi, hein, parce que l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas du tout été respecté dans cette histoire, hein, où on a transporté des enfants.
Combien d'enfants alors, hein?
Alors au départ, on pensait que c'était 1600, mais depuis, le chiffre est monté à 2000, je crois qu'on est à 2200 enfants, donc c'est quand même très, très, très important. Hein, et finalement, c'est pas dans les livres d'histoire. Et justement, alors ces anciens enfants, devenus bien sûr adultes, hein, maintenant, se sont constitués en association et puis ils ont obtenu une loi de l'Assemblée nationale, une loi mémorielle, pour que la France reconnaisse ce qu'elle a fait. Ils aimeraient que ce soit inscrit dans l'histoire de France, parce que l'histoire, c'est les bons et les mauvais côtés aussi. Hein, Et puis, en même temps, ils veulent des billets pour pouvoir aller rencontrer leur famille. Hein. Voilà, et Ils demandent tout ça et puis que ce soit considéré comme un crime contre l'enfance. Voilà, donc on va débattre avec les lycéens de à partir de ce film, quels sont les droits humains et les droits de l'enfant qui ont été violés dans ces cas-là. Hein. On verra avec eux ce qu'ils en pensent.
Voilà. À quelle heure le...
Donc ça, c'est, si vous voulez, il y aura une classe le lundi 6 mars, c'est de 10h à 12h, mais bon, c'est réservé à la classe, hein, bien sûr. Et puis le vendredi, c'est à 14h, on passe le film, et puis ensuite, on débat avec les élèves et le professeur. Voilà, et ensuite, donc le jeudi 9 mars, il y a, je rappelle, le ciné-débat au Ciné-Étoile autour du film Bienvenue, qui est une comédie. Hein. Donc c'est agréable à regarder, c'est pas plombant comme certains films.
C'est ouvert à tous.
Et c'est ouvert à tous, là, à Cinétoile, bien sûr. Tu fais bien de le rappeler. C'est ouvert à tous. Venez nombreux. Et puis, vous pourrez débattre avec les associations présentes. Hein, je rappelle, donc, c'est Amnesty International qui organise, mais nous avons invité des associations qui sont présentes sur le terrain, et dont Réseau Éducation Sans Frontières, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Ligue des Droits de l'Homme. Voilà. Et donc, ensemble, on débattra de l'accueil des réfugiés. Et puis, à la fin du mois, le 25 mars, on a une rencontre interrégionale à Bagnols-sur-Cèze. Alors là, c'est pour tous les groupes d'Amnesty de la région. Et donc là, on a invité deux personnes. Alors, Geneviève Garrigos, qui est l'ancienne présidente d'Amnesty France. Et puis, Birab Dahabé, qui est un défenseur des droits humains mauritanien, prix du droit de l'homme de l'ONU, qui est un ami et qui viendra nous parler de la persistance de l'esclavage en Mauritanie, l'esclavage par ascendance, hein, le fait que des enfants, parce qu'ils sont nés d'une femme esclave, appartiennent au maître, ils peuvent être vendus, donnés, voilà. Donc, c'est une rencontre très intéressante avec un personnage qui mène un combat absolument non violent. D'ailleurs, beaucoup l'appellent le Mandela de Mauritanie. Voilà. Donc ça, c'est une réunion à Bagnols-sur-Cèze le 25 mars. Voilà pour les activités du groupe et de la région. Je remercie à nouveau Catherine d'être venue nous parler de Réseau Éducation Sans Frontières. Et puis, on va terminer par un appel aux citoyens.
Que voulons-nous ? Nous voulons être le changement. Nous voulons guérir les blessures qui nous divisent. Nous voulons l'unité à travers la vérité et la justice. Plus de mensonges, plus de blâme, plus de haine, plus de peur, plus de débats toxiques. Nous voulons la rhétorique de l'amour, la bonté déchaînée en nous tous. Nous voulons nous avec eux et non plus nous contre eux. Nous voulons célébrer des gens de tous horizons, car la diversité nous rend plus forts. Nous voulons que 21 millions de réfugiés aient un toit. Nous voulons que plus jamais ça signifie plus jamais ça. Des gouvernements qui soutiennent les droits de l'homme, plus d'ombre sur notre conscience collective. Nous voulons la liberté de découvrir des idées de toutes sortes. Nous voulons un espace pour parler librement de ce en quoi nous croyons. Peu importe qui vous aimez, à quoi vous ressemblez ou d'où vous venez, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous voulons des politiques qui se battent pour les droits du peuple. Nous voulons que les droits de l'homme soient au cœur du débat mondial. Nous voulons en finir avec la politique du pouvoir. Nous voulons que nos dirigeants utilisent le pouvoir que nous leur donnons pour actionner les bonnes mesures, pour nous réunir et gagner notre confiance, pour tous nous protéger. Si vous voulez vivre dans un monde tolérant, un monde juste, un monde égal, se révolter ne suffit plus. Rejoignez-nous en 2017 pour lutter pour ce que vous voulez.